tel quel. Podcast. Sur le pont, depuis plus de 9 mois, la liste des professionnels de santé décédés du Covid ne cesse de s'allonger. Plus d'une soixantaine d'entre eux sont morts du virus à ce jour. Médecins généralistes, infirmiers, anesthésistes réanimateurs, spécialistes des maladies infectieuses, c'est tout le corps médical qui pleure la disparition de leurs collègues et déplore leur cadre de travail. À l'instar de la population générale, les blouses blanches sont exposées à la contamination. Comme tout citoyen, les médecins testés positifs sont confrontés au stress de la prise en charge sanitaire et à l'angoisse de voir la charge virale se développer et les conduire ainsi en salle de réanimation. Comme certains d'entre nous, des spécialistes optent pour l'automédication plutôt que de suivre à la lettre les directives sanitaires, notamment le protocole de traitement dès les premiers jours du symptôme. Population prioritaire pour la vaste campagne de vaccination, le corps médical va une nouvelle fois être en première ligne, à la fois pour se faire vacciner et pour administrer le vaccin, sans pour autant les protéger face à un virus qui continuera à circuler et à tuer. Je suis Rachid Alaoui, vous écoutez le Scan, podcast d'actu le tel quel. Le corps médical est tabou et s'attache à rester debout depuis le déclenchement de la crise sanitaire qui a emporté sur son passage une soixantaine de médecins morts du Covid. Bonjour Sundous.
Bonjour Rachid.
Sundous Shraibi, journaliste tel quel. On oublie souvent que les médecins sont exposés, voire surexposés mortellement au Covid.
Bien sûr, parce qu'au final, ça reste des citoyens. Donc, on constate aujourd'hui une vague de décès au niveau du corps médical qui, dans un premier temps, est évidemment liée à l'augmentation de la vitesse de propagation du virus. Mais on constate aujourd'hui que 60 médecins, et encore les chiffres datent de la semaine dernière, donc il faut les actualiser, 60 médecins sur une population de 12 000 médecins sont décédés. Un ratio qui est beaucoup plus grand que les 6 957 décès cumulés sur une population de 36 millions d'habitants. Donc, aujourd'hui, les médecins se considèrent comme étant en deuil, puisque, on le sait, la communauté des médecins est une communauté soudée, où tout le monde se connaît. Et un des médecins à qui j'ai pu parler, par exemple, a déploré la mort de 5 confrères en seulement une semaine. Et tous précisent que ce sont des amis, plus que des collègues, qu'ils ont perdus. Un autre m'a dit, ce sont des gens avec qui on a étudié, avec qui on a passé nos diplômes, chez qui on a les consultés et qui disparaissent du jour au lendemain.
Ça doit pas être simple de gérer psychologiquement l'angoisse constante d'une éventuelle contamination.
Bien sûr, de toute façon, ils sont mobilisés sur le front de cette crise sanitaire. C'est l'essence même de leur métier, mais on a tendance à oublier qu'ils ont également des vies de famille et que donc leur contamination à eux implique celle de leurs enfants, par exemple, ou de leurs parents. Certains, par précaution, par angoisse, en sont à leur 5e ou 6e test PCR. Dès la moindre toux, ils pensent être positifs et c'est ce qui ressort énormément à travers les différents témoignages que j'ai eus. Pour eux, attraper le Covid, c'est devenu presque inévitable. C'est quelque chose à laquelle ils s'attendent. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va arriver. Pour les femmes, c'est encore plus compliqué. Une médecin femme que j'ai eue, qui est chef du service de SAMU de la ville d'Agadir, par la force des choses, se retrouve à donc passer toute la journée en contact avec des patients positifs et ensuite à faire à manger à ses enfants le soir quand elle rentre. Donc, dès qu'elle se sent malade, par exemple, qu'elle a la moindre toux, le moindre symptôme, elle pense automatiquement à ses enfants. Et c'est de là où vient cette anxiété. Ensuite, au-delà de l'angoisse, il y a aussi les conditions de travail qui sont très difficiles. Ça fait des années que les urgentistes, pour revenir sur le SAMU, tirent la sonnette d'alarme sur le manque d'effectifs au service des urgences et de réanimation. Aujourd'hui, avec le Covid, vu la nature de la maladie, ils sont les premiers à être sur le front, encore une fois. Et il explique très bien que personne n'est remplaçable. Lorsque quelqu'un tombe malade, on ne le remplace pas, on travaille pour deux. Et une fois que cette personne est guérie, elle n'a pas de période de convalescence, elle revient directement.
En même temps, Sundous, est-ce que ce n'est pas les risques du métier?
Bien sûr, et les médecins en sont conscients. C'est d'ailleurs quelque chose qu'ils ont tous rapporté à l'unanimité. Ils disent que dans leur formation et parcours, on leur apprend à gérer la pression et on leur apprend à vivre avec la fatigue, à soigner un patient, quelle que soit la circonstance. Jamal Din Cohen, qui est le président de la Fédération nationale des médecins anesthésistes et réanimateurs, le disait, le corps médical et paramédical n'a jamais été chouchouté ou gâté. Cela dit, le fait est que si leurs conditions de travail étaient difficiles avant la crise sanitaire, elles le sont encore plus.
Est-ce qu'elles attendent des promesses, voire des revendications exprimées par les médecins, donc les blouses blanches, qui n'ont pas été entendu par les pouvoirs publics?
Il y en a eu plusieurs, il y a eu des promesses, parce que malgré l'engagement et la conscience professionnelle des médecins, aujourd'hui, il y a une une déception au sein de cette communauté de professionnels. Premièrement, leurs congés ont été suspendus. Une des médecins le dit, ce n'est pas 5 jours de repos depuis 2019, aujourd'hui on entre en 2021, qui vont nous aider à compenser quoi que ce soit. Il y a eu la promesse des primes, qui ne sont jamais arrivées, ni pour les médecins, ni pour les infirmiers, ni pour les brancardiers, parce que eux, on a tendance à les oublier aussi. Et un des médecins me dit, c'est la valeur morale et non pécuniaire de la prime qui est importante. C'est une marque de reconnaissance et de considération. À côté, les médecins voient aussi que énormément de gestes ont été faits pour d'autres secteurs. Les médecins n'ont aujourd'hui rien vu. Finalement, ce week-end, il y a un courrier d'urgence qui a été envoyé aux directions régionales de la santé, où il a été demandé au chef des DRS de transmettre au ministère une liste de professionnels de la santé engagés dans la crise sanitaire. Normalement, ils devraient bénéficier d'une indemnité qui devrait être effectuée avant la fin 2020.
Pour revenir au décès des professionnels de santé, est-ce qu'il y a des facteurs qui ont favorisé la mortalité aussi importante au niveau du corps médical ?
Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, il y a le comportement des patients. Depuis que le ministère a inclus les cabinets des généralistes dans le protocole de prise en charge, les patients vont consulter dans des cabinets privés. Et donc, c'est le comportement du patient pendant la consultation qui pose problème. Il y en a qui refusent de mettre leur masque. Il y en a qu'il faut rappeler à l'ordre et leur dire de remettre leur masque. Et puis, il y a aussi ceux qui ne disent pas qu'ils sont positifs au Covid et qui préviennent le médecin qu'à la fin de la consultation. D'autre part, il y a les médecins qui refusent d'aller consulter ou de se rendre à l'hôpital parce qu'ils connaissent les conditions difficiles, ils connaissent le mal de l'hôpital et donc ils privilégient l'automédication. Un des médecins me dit qu'il a dû faire sortir lui-même de chez lui un de ses confrères pour le pousser à aller à l'hôpital. Par conséquent, ça crée du retard et donc le médecin arrive à l'hôpital à une étape où le stade de la maladie est déjà très grave et avancé. Ça augmente naturellement le risque de décès. Puis il y a eu aussi toute la polémique autour de l'hydroxychloroquine. On le sait, les médecins ne sont jamais d'accord sur rien, mais il y en a qui ont refusé de se soigner à l'hydroxychloroquine. Donc on a ici un ensemble de tendances qui ont été observées chez les professionnels de la santé, que leurs collègues racontent aujourd'hui et qui pourraient expliquer cette vague de décès.
Sont nous, c'est des tendances lourdes au niveau du corps médical qui sont identique, voire similaire à celle des citoyens qui sont décédés du Covid.
Tout à fait, parce que les médecins sont aussi des citoyens, donc il y a l'augmentation de la vitesse de propagation du virus, mais il y a aussi, par exemple, la disponibilité et l'accès aux lits. Aujourd'hui, on parle d'un taux d'occupation de 40% des lits de réanimation, mais si on prend les lits de réanimation qui sont dédiés au Covid, on dépasse largement les 100%. Ensuite, il y a le manque de clarté au niveau du parcours de soins chez les professionnels de la santé, ce qui est grave, puisque c'est eux qui effectuent ce parcours de soins. Et donc, c'est dire qu'il arrive que les médecins eux-mêmes ne savent pas vers qui se diriger lorsqu'ils tombent malades. On a un exemple basique. Il y a une circulaire du ministère de la Santé qui a décrété que, dans l'attente d'un test PCR positif, si le patient est considéré comme cas probable ou s'il dispose d'un scanner thoracique, il commence son traitement à l'hydroxychloroquine. Aujourd'hui, on a encore des médecins qui refusent de délivrer le traitement tant que le résultat du test PCR n'est pas encore arrivé. Donc, ça crée un retard. Et ça illustre à quel point le parcours de soins est chaotique, c'est-à-dire les médecins ne soignent pas de la même façon.
Compte tenu qu'aujourd'hui tout le monde a les yeux rivés sur les candidats vaccins et la vaccination générale, est-ce que les professionnels de santé considèrent que la vaccination est le dernier espoir ?
Oui et non. Les médecins sont parfaitement conscients du fait que le vaccin est nécessaire. Ils l'attendent avec impatience, comme tout le monde, mais ils sont aussi parfaitement conscients du fait qu'une campagne de vaccination aussi large, en si peu de temps, nécessite un effectif et une mobilisation qui doit être assurée par des professionnels de la santé. Donc ce sont les mêmes personnes qu'on va retrouver au front. Ensuite, l'arrivée du vaccin a aussi tendance à faire oublier que la pandémie est encore là, que les gens continuent de tomber malades, qu'il faut continuer de les soigner et qu'il y en a qui continuent de mourir.
À l'instar des sécuritaires et des enseignants, les médecins font partie des populations prioritaires à la vaccination. Est-ce que vous, qui les avez côtoyés, consultés, entre guillemets, sont douces, est-ce qu'ils sont favorables ou pas au vaccin ?
Alors, vous savez, c'est un secret pour personne, il y a énormément de divergences au niveau des médecins. C'est comme avec l'hydroxychloroquine, certains sont pour, d'autres sont contre. Ils disposent aussi d'un savoir, des connaissances que nous, citoyens lambda, n'avons pas, et qu'il leur évite de tomber dans certaines théories complotistes. Maintenant, je ne me permettrai pas de parler au nom de tous les médecins, mais je pense que beaucoup, en tout cas d'après les témoignages que j'ai pu avoir, sont conscients de la nécessité de ce vaccin. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne le voient pas comme un outil qui résoudrait immédiatement la situation. Ils insistent tous sur le fait que l'immunité collective arrivera dans 3 mois au minimum. Et il ne faut pas oublier que même s'ils sont prioritaires dans la campagne de vaccination, leur vaccination n'est pas obligatoire.
Merci beaucoup, Sundus, pour cet éclairage.
Merci à vous.
Le scan s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur telquel.ma.
Pour plus d'enquêtes, de reportages et d'analyses, abonnez-vous à telquel sur telquel.ma/abo, telquel.ma/abo, A-B-O.